moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ja, bonjour, le gute Maria, wo mer kann auch ganz einfach sagen, Shalom. Wie geht's bei euch? Alles im Butter? Sind die Sommerferien jetzt herum? Wir haben ja plötzlich meine Sendung, geht immer wieder schon 4 Jahre lang. Non, salut du. Aber immer mit der Selbstfreude und Plaisir. Alors, on continue en French. J'aime ma Muttersprache. Avant de démarrer mon Kesperle radiophonique, fais-moi une place qui est toujours à la même place le mercredi à 11h30 et rediff le dimanche à 12h30. Et c'est déjà la 4e année et toujours la même ferveur, la même joie, le même plaisir de vous présenter mes invités surprises. Plus de 130 invités, ça va du remouleur au mireur d'étoiles, au chef de cuisine et même à Madame Pipi qui a des ennuis. Des hôtes, des convives, des invités, autant de voix que nous faisons rayonner, chers auditeurs, au fil des ondes remplies de lumière. Alors Muller, tu es toujours aussi pipelette, qui est ton invité surprise pour cette rentrée 2025? Mon invité, je vais vous le présenter. Un peu de patience, un peu de geduld, comme on dit en alsacien. J'ai invité un homme des médias, issu de la presse écrite, d'un journal gratuit qui a le vent en poupe, à l'heure où tant de journaux papier battent de l'aile, son maxi-flash à lui s'envole vers de nouveaux horizons. Bonjour Hervé Floriot, tu es fondateur du journal Le Maxi Flash. Comment tu gazouilles dans ton monde ?
Bonjour André, bah, ça gazouille bien cette rentrée.
Ça me fait plaisir de te recevoir.
Merci.
Parce que moi je lis un peu ton Maxi Flash qu'on voit un peu partout, mais on en parlera plus tard, un peu plus loin. Je voudrais d'abord savoir comment tu as passé ton été. T'avais pas trop chaud ?
Un très bel été, reposant dans le Luberon.
Ah, c'est beau là-bas !
Les cigales, le soleil.
Oh, c'est beau. Les petits vins rosés, tout ça.
Et la bière locale, la Fada.
Ah, la Fada, je la connais, j'ai bu ça aussi dans le Var cet été. C'est une belle, c'est un beau nom hein, pour la bière,
c'est Fada. C'est un beau nom, c'est une belle région de découverte. Ouais, et pour un passionné de vélo, c'est un environnement formidable.
Ah, tu es cycliste ?
Oui.
Ah, tu aimes le vélo, c'est pour ça que t'es filiforme comme ça. Là. Ah, je comprends, ouais. Mais écoute, parle-moi un peu de toi, qui tu es, d'où viens-tu, à quoi tu rêves ? Quels sont tes grands rêves ? Parle-moi un peu de ça.
Hervé Floriot, je suis né à Strasbourg, je ne sais pas si on donne encore la date aujourd'hui. Le 27 août 1966, de la Méno, et aujourd'hui travailler toute une vie pour se rendre compte que si on veut aller dans mes rêves, j'aimerais bien retrouver l'insouciance de notre enfance, le monde de
nos jours. Ça reviendra, ça, tu crois ?
Quand en tout cas, jouais, j'y travaille.
Quand tu jouais à Thierry Lafronde, à Ivan Noé ou à Casimir.
Oui, et ben, de se rendre compte un petit peu que cette insouciance nous permet de ne pas forcément comprendre tout ce qui se passe et on ne s'en sent pas plus mal.
Mais c'est une belle enfance, une enfance paradisiaque. Tu as grandi où ? In Strasbourg, tu as grandi ?
Alors, je suis né à Strasbourg, mais mon papa, qui était patron de Citroën Strasbourg dans les années 60, a quitté Strasbourg pour rejoindre Saint-Malo et être concessionnaire automobile Citroën à Saint-Malo, d'accord, où j'ai passé mes 10 premières années.
Oh, c'est pas désagréable,
c'est
hein, Saint-Malo.
C'est pas désagréable. C'est une beau, région là-bas, avec une forte identité comme l'Alsace, ouais, avec de belles traditions, une magnifique mer, une magnifique côte,
ouais, c'est beau,
et de
là-bas,
belles personnes.
Il y a beaucoup de vieux bateaux qui ont échoué là-bas pour rentrer dans le port. Les caravelles, tout ça, autrefois.
Surcouf, les corsaires.
Les corsaires,
les malouins.
Alors, d'accord, donc j'ai compris d'où tu es né, où tu as grandi. Parle-moi de tes études. Tu étais plutôt un rêveur, un bosseur, ou alors plutôt un rêveur comme moi, je pense
Ah, un vrai rêveur, ce qui n'était pas évident. Je préférais regarder l'oiseau qui était au bord de la fenêtre et la feuille d'automne tomber que de me concentrer sur les cours.
Et alors, je sais que tu es un créatif. Tu avais eu des meilleures notes en chant, en dessin, en histoire.
Exact, voilà, tout ce qui était créatif. Et on se rend compte, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'on pense que l'éducation pourrait peut-être repérer les enfants sur leurs points forts et non pas sur leurs points faibles.
Ben, ceux-là, on les met de côté, hein. Malheureusement. C'est encore aujourd'hui de cette... Heureusement que les parents sont un peu là pour veiller au grain, mais autrefois, c'était comme ça. De nos temps, on allait à l'école, c'est un peu comme ça.
On a toujours tendance, comme souvent en entreprise d'ailleurs, de montrer du doigt ce qui ne va pas, alors qu'on a beaucoup de choses qui se passent bien.
Ouais, effectivement.
Donc il y a des points d'amélioration, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas brillant en maths qu'on ne peut pas devenir architecte et qu'on ne peut pas devenir un cinéaste ou...
L'école de la vie, c'est pas toujours que l'école, les bouquins. On a aussi l'école de la vie, le terrain. On apprend tout sur le terrain. Alors, tu me disais au téléphone tout à l'heure que tu étais un brin réservé, tu étais un garçon un peu timide.
Manque de confiance en soi, quand on est jeune, surtout
quand
effectivement...
À l'adolescence.
À l'adolescence,
ouais, c'est normal.
Manque de confiance, difficile à s'exprimer vers l'autre, mais ce métier m'a fait rapidement changer, et je pense même que c'est grâce à ce métier aujourd'hui que j'ai perdu cette timidité et souhaité vaincre surtout cette timidité.
Ouais. Et alors, à 15 ans, en parlant de ton adolescence, à 15 ans, tu as fait un CAP de vente, je crois.
Oui, je suis rentré un jour...
Ça, tu l'as réussi.
Alors, on rentre avec un bulletin pas très sympathique, un papa plutôt dur, à la Tonton Flingueur, qui n'a pas accepté ce bulletin et qui m'a emmené à la CCI qui était place Gutenberg.
Et toujours là-bas, je crois.
Ouais. Non, ils ont déménagé aujourd'hui. Ils ont déménagé à l'espace européen de l'entreprise, mais c'était pour demander quelles étaient les entreprises qui cherchaient un apprenti. Et je ne savais pas, quand ils m'ont emmené avec lui dans sa voiture, qu'il allait me faire travailler.
Waouh.
Et la première annonce, c'était les vêtements Hertz.
Ah oui, écoute, on en parlera un peu tout à l'heure. On va juste un tout petit peu se reposer les oreilles et écouter une petite musique de Françoise Hardy. Et après, on va revenir à la fin de tes études. Hein, d'accord ? Alors dis-moi, comment toi tu as dit adieu à tes études ? T'as aussi jeté le Kleenex, comme Françoise Hardy ?
Un petit peu, on m'a un petit peu forcé la main à jeter le Kleenex, à se retrouver du jour au lendemain apprenti. Effectivement, c'est quelque chose qui marque les esprits.
Et tu avais déjà ton CAP là, hein ? T'avais déjà ton CAP ?
C'était pour faire mon CAP de vendeur.
D'accord.
Voilà, c'était prémonitoire, un CAP de vente en magasin.
Pas tellement envie de faire ça, mais bon, ton père t'a forcé.
Je ne sais pas si à 15 ans on sait exactement ce qu'on veut faire.
Je ne savais pas non plus.
Je me pose encore la question.
Ouais, c'est trop jeune.
30 ans plus tard.
Ouais. Et alors, tu es allé dans une grande maison qui avait un gros cœur, je crois. Hein.
Oui, c'était les vêtements Hertz, rue du 22 novembre à Strasbourg, qui avait également une antenne à Schilt.
À Schilt, ouais, c'est là que j'allais, mon père m'emmenait là-bas pour m'habiller.
Voilà.
J'étais mon premier anorak là-bas. Ouais.
Une très belle école, rendez-vous à 7h le matin.
Wow.
Première heure, il fallait faire tous les étages du magasin, 1500 m² pour enlever toutes les aiguilles qui étaient plantées au sol.
Parce qu'il y avait les gens perdaient des aiguilles, non ?
Non, c'est parce qu'à l'époque, quasiment tous les vêtements demandaient une retouche.
Ah.
Et donc, il y avait un atelier de retouche d'une vingtaine de personnes intégrées aux vêtements Hertz. Et les vendeurs faisaient les retouches, en tout cas... prenais
les ourlets,
et le matin, je devais enlever les aiguilles avec ma petite bourse sur mon bras gauche.
Ah ouais.
Et c'était ma première mission tous les matins.
D'accord, et il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup.
Il y avait 3 étages.
Trois, oui. alors c'est vrai qu'on peut le dire, ça forge un homme, ça de faire des choses peut-être désagréables, mais il faut passer par là, quoi.
C'était une école qui était difficile, désagréable, mais juste.
Juste, ouais.
Juste, où on savait récompenser les gens qui travaillaient, où on savait valoriser les gens qui travaillaient. Et j'ai beaucoup appris, et je le remercie beaucoup encore aujourd'hui, sur les valeurs qui m'ont inculqué au niveau du travail.
C'est des gens qui avaient grand cœur ?
C'est des gens qui avaient grand cœur, mais qui savaient exactement ce qu'ils voulaient et qui demandaient à leurs collaborateurs de les suivre dans cette mission.
Ah ouais. Et ça, aujourd'hui, ça ne peut plus exister avec tout ce qui se fait en Chine ou ailleurs. Je pense que des magasins comme ça, est-ce qu'ils ont encore, ils peuvent encore vendre des affaires comme ça, des vêtements, des...
c'est plus général. On se rend compte que l'ensemble des entreprises ont du mal à recruter et que la meilleure école de la vie peut être également de faire un CAP. Les hautes études n'aboutissent pas toujours à être chef d'entreprise demain ou de pouvoir briller dans une entreprise.
Bien sûr.
Et que je pense qu'on devrait favoriser et valoriser le monde de l'insertion du travail au plus grand nombre et aux jeunes qui se cherchent aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Alors, dans ta carrière, il y avait une date vraiment très importante. C'est presque comme, c'est presque le loto. Le 8-8-88, qu'est-ce qui s'est passé dans cette date?
Ça a été mon intégration au journal Le 67 Annonce, le 8-8-88.
C'était un des premiers journaux gratuits.
Avec le MAS.
Ah, le MAS, oui,
exactement. Il y avait le MAS et le 67 Annonce. C'était un journal 100% gratuit dont le contenu était uniquement la petite annonce.
Il n'y avait pas d'infos, il n'y avait rien dedans.
Rien du tout.
Que des annonceurs.
Le contenu,
quoi.
C'était la petite annonce de particulier à particulier, avant que le digital existe.
D'accord.
C'était le bon moyen de trouver
ta voiture, ta moto.
La machine à laver, le micro-ondes.
Je me souviens
tout
bien
le monde
de
passait.
Ça.
Oui, c'était à peu
très
près entre 4000 et 5000 petites annonces différentes chaque semaine dans le journal.
D'accord. Et toi, tu y travaillais, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ta place?
Alors, j'ai commencé comme attaché commercial au journal, où j'avais le secteur de Schiltigheim. Et mon premier client que j'ai été voir, ça a été les vêtements Hertz chez Schiltigheim, pour leur rappeler à mon bon souvenir. Et ils ont joué le jeu. Ils ont tout de suite joué le jeu.
Ils ont mis des annonces aussi
dedans. Ils ont mis quelques annonces pour m'accompagner dans mon développement à mes débuts.
Mais pas de publicité.
Si, des annonces de publicité.
D'accord.
Oui, c'était publicité.
Donc il y avait un photographe.
Les petites annonces étaient plus réservées aux particuliers.
Aux particuliers, ouais, d'accord.
Voilà.
Et donc il y avait un photographe qui est venu faire alors comment ça s'est passé? Qui
c'est
qui faisait?
À l'époque, on n'avait pas tous les outils qu'on avait aujourd'hui. Mais non, on faisait de la création avec des bromures, des chromalins, tout ce qui était bien jargon technique.
C'était de
presse.
La débrouille, quoi.
C'était de la débrouille pour créer des annonces. Et d'ailleurs, j'ai le numéro 1 qui est dans mon bureau du 67 annonces. Et quand on l'ouvre, ça fait sourire. Parce qu'on voit des communications de Canal+ à 5 francs par mois.
Ah ouais, wow.
On voit les magasins Global qui communiquent.
Qui n'existent plus. Quoi.
Non, tout ça n'existe plus.
Et alors, c'était difficile d'aller convaincre les gens pour faire de la pub dans ce genre de journal? Est-ce que toi, tu y allais donc les voir pour mettre de la publicité également?
Alors, on ne nous appelle pas pour la publicité. Hein.
Oui,
c'est un mal nécessaire pour beaucoup d'entreprises.
Ouais.
Donc, on attend d'être
aujourd'hui,
contacté.
Peut-être, mais pas à l'époque.
Oh, déjà, à l'époque, c'était toujours très concurrencé, la communication. Et donc, quand vous êtes timide et de rentrer dans un magasin pour demander s'il souhaite faire de la communication, en tout cas l'interroger sur son environnement de communication, ce n'était pas des plus évidents.
D'ailleurs, ça ne les intéressait pas, tu veux dire?
La petite anecdote, c'est que je me suis retrouvé sur le secteur du Schiltigheim, mais l'un de mes premiers jours, j'ai arpenté la route de Bijwiller devant un magasin de cuir, de vêtements cuir.
Ouais.
Et je suis passé 5 fois devant le magasin, je n'osais pas rentrer. Et je pense que le patron du magasin m'a vu.
Toute la timidité encore à l'époque.
M'a vu, il s'est demandé, il veut quoi ce loubar? Et donc il est sorti pour me demander si j'avais besoin d'un renseignement, et je lui ai expliqué qui j'étais, que j'avais la timidité, et il m'a invité à rentrer dans le magasin en me disant, ça tombe bien, je suis le président de l'association des commerçants Schiltigheim, et nous avons besoin de faire de la publicité, et on pensait aux 67 annonces, ça a été ma première page, qui m'a permis de rencontrer tous les adhérents de cette association,
et
de générer des contacts,
bien
et
sûr.
C'est parti.
Mais comment, d'où te vient ce don de communiquer avec les gens, de convaincre les gens, d'être aujourd'hui à la tête de ce maxi-flash, qu'on en parlera un peu plus tard, mais comment tu fais? C'est quelque chose qui est en toi, ça?
Je pense que ce n'est pas quelque chose forcément qui est en soi, mais si on n'aime pas les gens, on n'aime pas le commerce.
Ouais, c'est ça.
J'aime la découverte, j'aime rencontrer les gens, on a un métier formidable. Dans la même journée, je peux rencontrer 7 secteurs d'activités différents.
Différent.
Je peux être avec un concessionnaire automobile, avec un promoteur immobilier, je peux être avec un coiffeur, je peux rencontrer la même journée différents corps d'activités. Au bout de 40 ans, c'est une vraie richesse.
Ouais. Et les gens sont toujours... te suivent toujours dans ton raisonnement, dans ce que tu leur proposes, ou c'est des fois très compliqué quand
Il s'agit de convaincre. On a tous besoin d'être convaincus de quelque chose. On doit convaincre ses enfants d'aller à l'école le matin. On doit convaincre ses collaborateurs de nous rejoindre et de faire front avec nous. Bien entendu, il faut convaincre l'ensemble des entreprises, mais ils ont besoin de communiquer. Tout le monde a besoin de communiquer. Et aujourd'hui, la force du papier et de la proximité a un nom, et que le digital ou le numérique, ce n'est pas la solution unique.
Les gens ont besoin de papier, ont besoin d'avoir quelque chose dans la main, tu veux dire, de tenir un papier, un journal papier.
Il n'y a pas très longtemps, on a rencontré un professeur d'histoire qui est venu à mes bureaux et qui m'expliquait qu'il récupérait souvent les journaux Maxi Flash quand il y avait un article sur l'histoire. Et donc là, c'était sur la bataille de Reichshofen.
Ah oui, j'ai vu, bah oui.
Voilà, on avait fait un bel article sur la bataille de Reichshofen et il m'expliquait quel plaisir pour lui de voir 28 élèves avec un journal dans la main en train de disserter sur l'article qu'avait écrit ma journaliste. Ah. Donc oui, je pense qu'on doit cohabiter avec le numérique, le papier. C'est une complémentarité. Je vous rappelle que quand le numérique est arrivé, on a dit que les livres, c'était fini. Rappelez-vous, André, le train, tout le monde avait sa liseuse. Aujourd'hui, on ne voit quasiment plus de liseuse et on revoit le livre parce que le livre a fait une progression. On est à plus de 18% de vente de livres.
Tu l'emmènes avec toi.
On l'emmène avec soi.
Bien sûr.
Sentir.
Tu le mets dans ta bibliothèque.
Tourner une page, mettre un coup de stabilo sur une phrase que vous souhaitez retenir.
Ouais,
ça a une âme, ça a une vie, un livre.
Ouais. Et alors aujourd'hui, tu en as parlé à l'instant, tu es le boss de ce Maxi Flash. C'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Hein, on va juste écouter un peu de musique, un Bachung que tu aimes beaucoup aussi. On va écouter un petit peu sa musiquette.
Des trésors satinés, dorés à souhait. Jardin d'une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores.
Et alors, dis-moi, ta locomotive, c'est Maxi Flash, c'est toi le créateur de ce Maxi Flash. Comment t'es venue cette idée? Bien sûr, tu étais dans le 67, ce que tu me disais tout à l'heure, mais Maxi Flash, c'est toi.
Alors, c'est une entreprise, Maxi Flash, qui existait depuis 1977 précédemment. Et avant 77, ça s'appelait STL Flash, sous le concept journal de petite annonce. Et quand la petite annonce a pris fin, le groupe Comareg et le groupe Spire, qui avaient à peu près 500 journaux sur toute la France, ont fermé les portes suite au digital et la rubrique Le Bon Coin, enfin en tout cas le site Le Bon Coin, qui est venu finaliser ses journaux. J'ai décidé en 2010 de le relancer et de travailler non plus sous la forme de la petite annonce, mais sur du contenu et du rédactionnel.
Ouais, ça c'était la nouvelle idée, c'était la bonne idée ça. Donc il y a de l'info, il y a un peu tout, il y a des textes, t'as des chroniqueurs qui travaillent.
Alors on a bien entendu chroniqueurs, on a des journalistes, nous sommes 27 personnes aujourd'hui. On
27 est salariés
27 salariés.
À Haguenau ça?
À Haguenau, Aubernais et Colmar. Nous avons trois éditions aujourd'hui, donc ce qui est plutôt une belle diffusion chaque semaine. Et il nous a fallu réfléchir un petit peu, si vous voulez, de quelle manière nous y allions travailler cette rédaction. Pour avoir travaillé dans le groupe Lagardère et travaillé pour d'autres médias, on a toujours, toujours fait de l'audience par la peur.
Ça veut dire quoi, par la peur?
Par la peur, ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et un crash d'hélicoptère, les guerres, une personne qui s'est défenestrée, une boutique cambriolée. Et aujourd'hui...
Ça, tu laisses ça aux autres.
Ça, je laisse ça aux autres. Tout le monde fait ça. Donc,
c'est
nous, on a l'information locale et positive.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Ouais.
Nous avons une vie associative en Alsace qui est extraordinaire. Nous avons des milliers de bénévoles. Quand on sait qu'un bénévole, c'est la première faculté d'un bénévole, c'est son... Son humilité, c'est son humilité. Ouais. Il nous a semblé aussi important de parler de ces belles initiatives, de ce que font toutes ces personnes. Durant le Covid, nous avions un article sur Germaine qui tricote des bonnets à brumath pour les plus démunis.
Ah,
et en tout cas, surtout pour la cellule du professeur Lutz Patrick qui est à l'hôpital civil de Haute-Pierre pour les enfants atteints de la maladie du cancer. Donc elle leur fait des bonnets. Suite à l'article, il se retrouve à 15 à faire des bonnets aujourd'hui.
Wow.
Donc il est beau de pouvoir mettre en lien et de, d'aider, de favoriser, de participer à cette attractivité positive.
Chaque chroniqueur a un petit peu sa place, fait un travail dans un domaine différent. Je crois que tu as pas mal de choses dans la cuisine.
Nous avons un patron de rédaction, Éric Jeunetet.
Ah, je connais bien, je l'ai reçu ici à ce micro.
Et on se connaît depuis bien longtemps, qui a suivi le concept dès le premier jour et qui, lui, est garant effectivement de cette ligne éditoriale que nous avons mis en place. Et je pense qu'un journal, plus vous avez de diversité d'écriture, de points de vue, plus vous avez de l'intérêt. Et donc, nous avons des journalistes intégrés et beaucoup de chroniqueurs extérieurs.
Extérieurs. Alors, ce Maxi Flash, on le trouve où? Parce qu'avant, c'était dans les boîtes aux lettres, je crois. Et aujourd'hui, ça a changé.
Alors, il était important pour nous de pouvoir contrôler entièrement notre business model. Nous avons toujours travaillé avec les sociétés de distribution qui, malheureusement, par cette loi qui est sortie, enfin, qui n'est pas encore sortie, mais cette loi climat et résilience voulue par le gouvernement, interdit de plus en plus le prospectus en boîte aux lettres. Nous ne sommes pas un prospectus, nous ne sommes pas interdits de boîte aux lettres, mais de faire une distribution individuelle et hors contexte économique de notre société, et ce n'est pas jouable. Donc on a créé nous-mêmes notre diffusion en mettant en place plus de 1600 points de dépôt entre Haguenau, Obernai et Colmar.
Et ça ressemble à quoi ces points de dépôt? C'est comment?
C'est des présentoirs qui sont posés devant les boulangeries, devant les supermarchés, hypermarchés, supérettes, et bien entendu...
À l'extérieur souvent?
À l'extérieur. Quand on a eu l'idée, j'ai écrit à l'ensemble des communes du Nord-Alsace, aux 148 maires. Et sur les 148 maires, en 24 heures, 147 maires avaient accepté le dépôt du journal Maxi Flash parce qu'il correspond à une éditoriale qui leur convient, qui met en avant ce que se passe dans chacune de nos villages.
Et ils sont protégés quand il pleut, par exemple? C'est une question stupide, mais comment vous faites?
Bien entendu, il y a un capot, c'est hermétique, c'est ravitaillé par nos soins, et c'est entretenu par nos soins. Nous avons une équipe maintenant intégré avec les camionnettes qui font la livraison chaque semaine.
Parce que dans la boîte aux lettres, ça marchait moins bien. Je pense à cette boîte aux lettres où il y a souvent marqué pas de pub. Merci de ne pas mettre de pub dans ma boîte aux lettres. Est-ce que ça, c'était un frein pour vous?
Alors, il y avait le stop pub, effectivement, qui représentait de 18 à 20% des boîtes aux lettres.
Ah, ouais.
Et puis, des poignées, ce qu'on appelle une poignée, c'est un document hébergeur avec les autres prospectus à l'intérieur, qui faisait que pour beaucoup de personnes, surtout dans des périodes de novembre ou de décembre, faisait que les gens jetaient entièrement la poignée parce que vous aviez trop de choses.
Après, je me dis quand même, c'était ce qui est sympa avec la boîte aux lettres, tu descends de chez toi, tu cherches ton litre de lait à la limite, ce qui n'existe plus, et tu cherches ton journal, quoi. Donc tu peux l'emmener chez toi. Maintenant, il faut te déplacer pour aller chercher le journal.
On a travaillé sur tous les points de proximité. Je pense que nous avons tous besoin de notre baguette de pain. Nous avons tous besoin d'aller nous ravitailler en essence. Nous avons tous besoin d'aller nous ravitailler dans les supermarchés, et nous sommes présents dans tous ces points.
D'accord. Alors, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des annonceurs? On en a parlé tout à l'heure, mais sur le côté de Haguenau, le nord de l'Alsace, où vous êtes surtout très, très bien distribué, comme à Colmar. C'est les stats, pas encore, je crois.
Pas encore. Ouais, alors, Haguenau, oui, puisqu'on a ouvert et nous fêtons nos 10
ans.
Vous
êtes là-bas, votre
rédaction
est là-bas.
Puisque nous avons ouvert en octobre 2015 et que nous fêtons notre 10e anniversaire en octobre 2025.
Oh, bah c'est bientôt, ça.
C'est bientôt.
Ça va être la grande fête du canard.
C'est la grande fête du canard, effectivement, oui. Petite anecdote, d'ailleurs, sur ce canard, parce qu'on me demande toujours pourquoi un canard et pourquoi cet emblème.
C'est vrai, le logo, en fait,
voilà,
c'est un canard.
C'est pas vraiment le logo, c'est effectivement l'image qu'on a donnée. En fait, tout simplement, mon assistante est revenue, je pense que c'était tout début 2015 ou début 2016, elle est revenue un week-end où elle a été voir son fils jouer à un match de foot.
Ah, oui.
Et il y a tous les gens qui lui demandaient, dans ton canard, j'ai lu ça.
Ouais, c'est vrai que c'est un canard, c'est un journal de
sûr. Et en fait, la véritable appellation du canard, c'est quand nous avions au début du 19e, les vendeurs à la sommette, à la sortie du métro, qui disaient édition spéciale, et on les avait, avec cette voix, on les appelait les canards.
Les canards,
et donc
exactement.
C'est comme ça qu'aujourd'hui, que nous avons repris outil de communication, le canard.
Et alors, est-ce que tu es heureux? Est-ce que ça se passe bien? Tout va bien? Ou alors, tu as beaucoup de travail pour mettre tout en place? Est-ce que c'est bien distribué? Alors, il manque des villes, par exemple, comme Strasbourg, Mulhouse, Célestat. Ce serait bien aussi que tu t'attaques à ces villes, que tu mettes tes distributeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que souvent, les gens me disent, mais où on trouve? Où on trouve le maxi-flash, tu vois? Souvent, les gens m'ont dit ça. Et c'est vrai, pourquoi pas à Strasbourg?
Alors, tout va bien. Merci, André.
Ouais, je t'en prie. Je le sais que ça va bien. Sinon, je ne t'aurais pas invité.
Le travail, c'est la santé. Et on est en bonne santé. Donc, c'est une bonne chose. Ouais. On est en bonne santé. C'est énormément de travail. La presse, c'est une lessiveuse. Vous sortez un journal toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut se remettre en cause sur la rédaction, les contenus, la mise en page, les publicités. Je rappelle que 50 numéros dans l'année.
Oui, c'est beaucoup. Ouais.
Voilà, depuis 10 ans. Alors, on ne va pas fêter notre numéro 500 puisqu'il y a eu le Covid qui est passé par là, mais on va arriver au numéro 450 prochainement. Et c'est vrai que ça demande énormément de travail. Donc, quand vous êtes dans cette boucle, si vous n'êtes pas passionné, si vous n'êtes pas habité par votre travail, vous ne pouvez pas réussir. C'est une certitude. Pour revenir sur notre développement, on a ouvert à Guenot, nous avons ouvert au Bernay et Colmar, et que nous avons un développement en marche, sauf que actuellement, le monde géopolitique et macroéconomique me laisse penser qu'on va rester un petit peu abrité pour le moment.
En dehors de ces grandes villes, tu veux dire ?
En dehors de ces grandes villes, dans le cadre du développement, on attend un petit peu que l'économie se remette à flot pour continuer le développement qui était prévu. Donc, on a rangé dans les cartons.
Oui, mais pourtant, dans ces grandes villes, il y a des lecteurs, il y a du potentiel.
Ah, il y a un potentiel de dingue. Et aujourd'hui, je reste convaincu qu'une information locale et positive de Schiltigheim, quand je suis chiliquois, ça m'intéressera.
Ah ouais.
Si j'habite Ilkirch, Grafenstaden, et que j'ai une information locale et positive de ce qui se passe à Ilkirch, il y a de fortes chances que le lectorat soit au rendez-vous. Vous savez, un média, il ne vit que de ses recettes publicitaires. Je n'ai aucune aide, on ne souhaite avoir aucune aide, ni de contrat d'objectifs et de moyens. Je pense que quand on est confronté à nos propres résultats, c'est là qu'en sort le meilleur au niveau de notre créativité. Et il était important pour nous aujourd'hui de pouvoir continuer ce développement et que ça ne passe que par le contenu. Et ce contenu, c'est une info locale et positive. C'est gratuit. On ne demande rien. On n'impose pas à le prendre.
C'est peut-être pour cette raison aussi que ça marche bien, parce que c'est gratuit. C'est un journal, c'est d'information. Il y a des chroniques, il y a plein de choses. On voit plein de choses. Je vois ma belle-sœur qui me dit souvent, je cherche ça à Cronenbourg. Je n'en loupe pas un et je vois plein de choses intéressantes. Elle même parle souvent de la voisine de Eric Jente. Et c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Il y a d'autres choses qu'elle aime moins. Mais ça, elle trouve ça sympa. Elle me dit, tiens, tu le connais, ce Eric Jente? Je dis, bien sûr, je le connais. Alors, elle me dit, j'aime beaucoup quand il parle de sa voisine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer, parce que c'est quelque chose d'attachant, quoi.
Effectivement, Eric me dit qu'il, dès qu'il est en représentation, on lui demande comment va sa voisine.
Ben justement,
donc, effectivement, c'est quelque chose de lui. Et c'est son premier indicateur qui fait qu'il va continuer avec la voisine et que ça permet à la voisine de nous donner un peu l'état d'âme, peut-être aussi du rédacteur en chef, quelque part.
Ouais, c'est bien. Alors, là, c'est la rentrée. La rentrée, c'est bien. T'as taillé tes crayons, t'as ton plumier, ton taille-crayon, tout va bien.
On vient de sortir le premier numéro de rentrée que j'ai ramené ici. Toute nouvelle formule, enrichie. Il est important pour un média, comme toute entreprise, d'ailleurs, de toujours développer et apporter des nouveautés. Et on a bien travaillé sur une nouvelle maquette.
C'est très bien. Mais écoute, je suis très heureux de t'avoir ici à Radio Judaïka. En fait, je vois que tu sais convaincre, tu sais parler, tu sais avec de l'enthousiasme et tu pétilles de bonheur. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer.
Plaisir
bonne
partagé.
Bonne chance à Maxi Flash.
Merci, André.
À bientôt. Générique de fin.
Ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai du.